R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Rebonsoir à toutes et à tous, et bonsoir pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir à la fois à Transcanal et à la fois en live sur r22.fr. On va commencer la deuxième partie de la soirée, mais avant ça, tout à l'heure, je suis allé un petit peu rapidement et je n'ai pas présenté en fait ce que c'était la R22. Et comme on en a discuté un petit peu tout à l'heure avec certains et certaines, je m'en profite ici là pour faire une petite parenthèse pour situer un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ces émissions-là. La R22, c'est une plateforme radiophonique qui est mutualisée par un ensemble de lieux, de collectifs et d'associations qu'on appelle des antennes qui chacun et chacune ont un espace qui leur est dédié sur la radio. Donc on y trouve tout type de formats, de collectifs et de projets qui ont une dimension sonore et avec aussi cette... un souci qui est partagé par les antennes, par les personnes qui participent à la radio, c'est d'utiliser aussi l'outil radio pour constituer un ensemble de réseaux d'entraide, de solidarité aussi, à la fois aussi bien pour se former les uns des autres que pour s'entraider pour des questions hyper très pragmatiques, quoi, d'accès aux soins, à la santé, de besoins de première nécessité, de logement. Et puis se relier différentes initiatives de lutte à travers la France et ailleurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on organise ces émissions et ces plateaux radio pour se retrouver, se partager des outils, des expériences qu'après on puisse réutiliser dans les contextes qui nous sont propres et faire circuler, quoi.
On peut dire aussi que la R22, c'est aussi un espace qui, à travers toutes ces vocations dont tu parles, est aussi un espace où on a soin pour les formes. C'est-à-dire que l'une des peut-être particularités, c'est de relier à la fois des actions, des engagements du terrain, mais aussi de réfléchir aux formes qu'elles peuvent prendre. On a entendu dans le plateau précédent l'un des épisodes, donc il y en a trois, bientôt quatre, d'ILOR, et je voulais aussi remarquer que la proposition qui est faite par le collectif ILOR a aussi une forme particulière au niveau radiophonique, un travail sur le sonore, sur la voix, sur le montage, et pour nous, c'est pas un détail, en fait, cette réflexion sur la forme. C'est aussi un effort qui est fait pour plonger les gens qui les écoutent dans la réalité, dans l'intensité de ce qui est vécu, ce qui est toujours la difficulté d'un partage d'expérience. Donc, je disais ça parce qu'on l'a pas dit dans le plateau précédent, mais il y a toute une partie des auteurs et des autrices de ILOR qui sont aussi qui ont un parcours qui a à voir avec les pratiques artistiques. Et sur second plateau, on aura aussi en fait cette espèce d'aller-retour entre des engagements sociaux, politiques, mais aussi des tentatives de réfléchir à ce que peuvent être des gestes artistiques aujourd'hui en dehors de leur de cette espèce de devenir néolibéral de l'art. Qu'est-ce que ça peut être comme geste d'accompagnement, de forme de présence et d'engagement? Donc voilà, je voulais aussi souligner que la radio a toujours eu, presque depuis le début, un souci très fort, autant pour des engagements que pour des poétiques. Et d'ailleurs, le R22 Tout le monde est un hommage à Édouard Glissant et donc à cette espèce de tissage entre la notion de politique et de poétique qu'a aussi évoqué Guillaume tout à l'heure.
Et c'est une bonne transition, en fait, pour entrer directement... en présence, quoi, de la famille restée étrangère, avec ici Barbara Manzetti.
Bonsoir. Alors, l'œuvre Restée étrangère est un remède préconisé en... Je lis, en fait. Je ne fais que lire parce que je ne suis qu'une porte-parole, en fait. Je suis coryphée dans la famille, ou mère, ou parfois... père aussi, ou parfois. Donc, je vais vous lire une partie de la notice ou mode d'emploi de l'œuvre Restée étrangère dans la forme qui a été remise au CNAP, qui est le Centre national des arts plastiques, puisque donc c'est cette œuvre qui n'est pas une œuvre immatérielle finalement, puisque le format de l'œuvre est la famille. Donc, c'est cette famille qui est entrée dans l'œuvre, dans la collection nationale. Mais donc, le mode d'emploi est le suivant. L'œuvre est préconisée en cas de vie mauvaise, Drunyan Pomko, dans une vie bonne, Drunyan Tchereko, en Koulango de Bundoukou, en Côte d'Ivoire, mais encore en cas de vie bonne, Drugno Tchereko, dans une vie mauvaise, Drugno Pomko. De manière générale, notamment dans le premier cas, il est conseillé d'adopter l'œuvre restée étranger dès votre entrée en France et dans la langue française, en particulier dès l'apparition des symptômes suivants. Coup de froid, coup de chaleur, déshydratation, exposition prolongée aux intempéries, faim, soif, mal de mer, dépossession, perte d'appétit, perte de poids, perte des droits civiques, mal du pays, dépression, travail au noir, régie administrative définitif, arrestation, placement en rétention, expulsion du territoire, grossesse comme ultime ressource, marginalisation avec invisibilisation progressive, parfois jusqu'à l'anonymat, empoisonnement administratif pour déni de réalité, devoir de faire preuve en violant le droit à la pudeur ou en étant violé, zombification, anxiété chronique, sidération, deuil, naufrage, mort par noyade. Dans le second cas de figure, en cas de vie bonne, dans une vie mauvaise, des effets indésirables éventuels pourraient survenir. Impatience des membres inférieurs, manque de sommeil, difficulté à se lever, narcolepsie, perte des repères culinaires, augmentation brusque de la consommation de viande, prise de poids, acouphènes, vertiges, vomissements, palpitations, hypermnésie, amnésie totale ou partielle, sensation de faiblesse soudaine, sensation de brûlure aux extrémités, amnésie, trouble de la vue, perte de l'autonomie, prostration, procrastination, déplacement progressif des goûts, des cultes et des exigences vestimentaires vers d'autres horizons d'élégance, accoutumance à la vie domestique, renoncement au confort et son contraire, avec la sensation amère de contribuer à engendrer des futurs capitalistes. État d'angoisse, frustration, sentiment d'impuissance, douleur dorsale aiguë, parfois irréversible, jusqu'à immobilisation totale ou partielle. Douleur fantôme chronique, douleur morale chronique ou aiguë, danger d'agression physique ou morale, ménopause ou andropause anticipée, isolement, dénuement, transgression de la loi, désobéissance civile, confrontation directe aux forces de l'ordre, difficulté à faire convivre les croyances, manque de croyances, développement réversible de comportements afro-abusés ou euro-abusés, apparition de traumatismes identitaires dus à la prise de conscience des contre-récits coloniaux et post-coloniaux. Quoi qu'il en soit, l'usage de l'œuvre restée étranger occasionnera une transition brutale du jeu vers le nous. Le passage vers l'identité plurielle vous amènera en qualité d'auteur dans l'œuvre communément appelée « Famille restée étranger, bienvenue ». Et ici, écrivez ici votre nom, dans la notice. Qu'est-ce que je dois dire encore, Simon? Tu n'as même pas de micro. Olivier?
Oui, mais tu peux dire déjà que c'est une notice qui est tout à fait sérieuse, que tu as été remis à une institution d'État, hein, qui est le Centre National des Arts Plastiques, qui donc organise la collection nationale d'arts plastiques, et qui donc a ce document comme notice d'usage d'une œuvre, et qui a dû aussi de ce fait accepter de modifier ses épistémologies, donc pour créer une des catégories de son indexation, à côté de la peinture, de la sculpture, de l'installation, a dû créer la catégorie famille.
Ouais, c'est ça. La famille est le format de l'œuvre. Car rester étranger est une œuvre de l'art. Quel genre d'art? Un art expérimental, c'est-à-dire un art en train de se faire, dont on fait l'expérience réelle, un art vivant, non spectaculaire, non exclusif, qui appartient aux personnes qui le font, qui le respirent, qui le transpirent. Vous aussi, vous êtes en train de le faire. Ce moment où vous vous engagez dans l'écoute de ce que je suis en train de lire vous appartient et vous entrez en contact avec l'activité qui fonde de l'expérience se rester étranger, une pratique de l'art sans extérieur, n'attend pas de spectateur, ni de lieu assigné, ni de moment adéquat pour se faire. Rester étranger arrive et fait place à chaque personne qui entre en contact avec son activité. Mais il y a toujours un mais. Donc comment on entre dans cette famille, comment on en sort et est-ce qu'on peut sortir de la famille? Je ne vais pas lire toute la notice, mais Ouais. La familiarité n'est pas le miroir d'une ressemblance exacte. C'est une coprésence d'affect. La famille est le lieu des paradoxes. Elle est à la fois un statut et un choix. À la fois œuvre et auteur, la famille est cette entité vivante et imparfaite dont le cœur dissonant est le foyer de la différence et laisse place au désaccord. La famille est voyage dans une fracture. Son expérience ne peut être contenue dans une seule définition. La famille n'est pas le sang. La famille n'est pas quelque chose de fixe. La famille est dépositaire de l'histoire de chacune de ses membres et la rend légitime. La famille est une friche, un jardin en jachère. Pour revenir à la première partie de la soirée, sa maison est la langue fle. Le fle est un continuum entre le fle, français langue étrangère, et les langues vernaculaires parlées par les membres de la famille, qui sont donc le Kulango de Bundoukou, parlé par Nicole Kofi, l'Ani, parlé par Prince Pakom Nango, le Tama ou Tamankik, parlé par Hassan Abdallah, Hussein Ishak Abdallah, Abdallah Ismail, Abdelaziz Abdelkarim, Masri Omar, Haroun, le Soninke, parlé par Ousmane Sissé, et voilà, plein de langues, et l'italien que je parle de plus en plus mal. Voilà. Donc, par ailleurs, dans la famille, nous ne traduisons pas, nous continuons d'entrer dans la langue française en compagnie des langues vernaculaires parlées au sein de la famille, c'est ça, voilà. Et la séquence que nous allons écouter ce soir, qui s'appelle Banana. Attends. La banane est cuite. Ça s'appelle La banane est cuite. Je suis désolée pour le. C'est qu'en fait, nous avons performé la semaine dernière dans une galerie à Paris, The Window. C'était une invitation. Quelque peu particulière, portée par deux auteurs en particulier, donc Nicole Kofi et Ousmane Sissé, qui venaient d'arriver depuis 3 jours seulement à la maison. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour introduire.
On dirait que c'est un son qui est en cours, même si
la plupart
des sons de Rester étranger sont courts, mais celui-là, il est encore plus en cours
que
les autres.
Il est plus en cours que d'habitude. Donc, préparez-vous à... Ouais.
Comment on dit étranger en soninké?
Tumaranké.
Tumaranké.
Oui.
Et rester étranger?
Tumaranké ngara.
Tumaranké ngara.
Awara.
Banana amona.
C'est la racine du bananier qu'on coupe.
La banane est cuite.
Bon, il faut attendre environ 7 mois, 6 mois comme ça pour que ça donne.
Des bananes?
Oui.
Des bananes.
Et quand on coupe, on le plante, on creuse la terre et on
D'accord.
met et on ferme. Parce que ce que on avait planté ici là, ça c'est, ce sont les graines.
Ouais.
Et ici encore avec le sol, la terre, c'est pas comme pour.
Comme chez toi.
Oui, comme chez moi, oui. Mmh. Avec la pluie, ça arrose, chaque jour ça arrose, et puis ça pousse vite.
Des bananes?
Oui.
Des bananes comment?
Des bananes mûres.
Quelle couleur?
C'est-à-dire la peau est de la couleur jaune.
Jaune?
Oui.
D'accord.
Quand la couleur est jaune, c'est que c'est mûr. Mais lorsque la couleur est noire, ça, on doit le frire. On doit frire ça. Quand c'est trop noir, on doit frire ça. Quand tu fais bouillir ça, ça devient trop pâteux.
La pâteux. Banane est cuite.
Pâteux.
Comment
La banane.
Oui, la banane.
La banane.
Oui.
Comment la cuisine?
Igande. Surondé. En bambara, oui.
Ah non, restons soninkés, hein. On va pas mélanger bambara soninké, sinon moi je comprends rien.
Ok, d'accord.
Je dois apprendre un tout petit peu.
On a soninké ou bien bambara?
Soninké.
Soninké, ok, d'accord.
Soninké.
Il y a des aubergines qu'on doit prendre.
Et tu les as vues, les aubergines?
Au déo, oui.
Ok, allons prendre les aubergines.
Tu regardes juste derrière.
Ouais.
S'il n'y a pas de point noir, c'est que c'est bon.
Cette banane.
Oui.
La banane est cuite. Comment tu le dis?
Banane à mouille.
À mouille.
À mouille.
À mouille. Oui. Mm-hmm. Et on la cuit comme on la cuit avec Nicole, dans l'eau, toujours?
Toujours à mouille.
Toujours dans l'eau?
À mouille.
Pour cuisiner, cuisine. La banane?
Oui, banane à mouille.
Oui, mais comment tu la cuisines?
Surondé.
Surondé?
Oui.
Ouais.
Oui.
Et est-ce que tu fais aussi la banane dans l'huile?
Dans l'huile?
Tu sais, couper...
Oui.
D'ailleurs, couper, c'est comment couper?
Nakutu.
Nakutu?
Oui, nakutu.
Donc, la banane, nakutu?
Nakutu.
Et dans l'huile?
Été.
Été?
Oui.
Et qu'est-ce que tu mets après dans l'huile?
Brahma.
Brahma?
Oui.
Ça, c'est quoi?
Casserole.
La casserole?
Oui, Brahma.
Brahma.
Oui.
Tu as parlé de l'igname là.
Oui, l'igname, oui.
Avec de l'igname. Oui, mais là, oui. Tu chantes en bambara en fait. Tu chantes le texte que tu as écrit l'autre soir.
Oui, coup avec, c'est la même chose en soninké, coup.
Ah, ouais, d'accord. Ouais.
Trois tomates, trois boules de tomates.
Ah, ouais, d'accord.
Oui.
Donc,
ça dépend.
Là, ça
oui, ça dépend. Si les tomates sont grosses,
ouais.
Tu prends peut-être trois ou quatre. Mais
pour le poisson qu'on a, ça suffit, tu es sûr?
Oui, c'est bon.
Ça suffit. Et qu'est-ce qui nous manque aussi? Des oignons, de l'ail
Oui, 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 des oignons.
Bien manger, l'onigé.
L'onigé,
oui.
Ouais. Parce que hier soir, tu nous as cuisiné
oui.
un plat.
Un plat, oui.
Et tu nous as dit, nous ne sommes plus en Côte d'Ivoire.
Oui.
Qu'est-ce que tu as dit? On était où hier soir?
À Kaskara.
Kaskara.
Au Kaskara.
Qui se trouve où?
Wow. Village de Kaskara.
Ouais. Mais c'est où?
Et Mali.
C'est au Mali.
Oui.
On n'était plus en Côte d'Ivoire, on était parti au Mali.
Oui. Des réseaux de Kaï, Sérékili, de Djema. Réseau de Kaï, Sérékili, de Djema, commune de Gourmera.
Il y a des cailloux chez toi aussi pour écraser les aubergines.
Oui, j'ai vu. Là-bas,
c'est
cailloux,
il n'y a pas de mixeur. Mm. Les mixeurs, c'est ici. Moi, j'ai vu mixeur.
Mm.
La première fois.
Et maintenant, tu préfères le caillou ou le mixeur?
Oui.
Depuis que tu es arrivé, donc tu es arrivé vendredi, et tu es devenu auteur.
Auteur.
Auteur, tu te souviens ce que c'est? Hassan, il t'a expliqué. Auteur, c'est quelqu'un qui écrit.
Oh, oui, oui.
Qui écrit des textes.
Des textes et tout ça.
Écrivain.
Oui.
Mmh, tu as écrit, en fait.
Oui.
À peine tu es arrivé, tu as écrit sur le mur de la cuisine.
Tu rentres dans le français.
Dans le français.
Tu rentres comme dans un vêtement.
Oui.
Doucement, comme ça, comme quand tu mets une veste.
Oui.
Et tu vas parler français.
En français.
Tu es professeur.
Ah.
Non, mais c'est ça.
Ah bon.
Quand tu sors, tu vas à l'école.
Oui.
Mais quand tu es ici,
mm-hmm.
tu es le professeur.
Professeur,
c'est ça. Voilà. Il y a un mot pour dire professeur en soninké, le maître. Le
professeur.
Oui.
En soninké.
Oui.
Karamoro.
Quoi?
Karamoro.
Karamoro.
Oui.
Il faut trouver un mot pour la fin. La faim, tu connais la faim?
La faim.
Faim.
La faim.
Pas la faim parce que tu veux manger, mais la faim parce que c'est fini.
Ah, ouais, anime.
Anime.
Oui.
Ah bah voilà, c'est fini. Oui. Anime.
Anime.
La banane est cuite.
Ani banana, ani jaba, ani tomati, ani kou, banana amona.
On va s'arrêter là pour la. On n'a pas pu aller plus loin parce qu'on a on continue d'enregistrer hier soir. J'ai demandé à Ousmane Cissé de m'aider à enregistrer le texte qu'il avait écrit en soninké. Mais du coup, ça a basculé dans une conversation. Et comme nous habitons ensemble, que l'œuvre se fait comme ça, en fait, autour de la table, c'est. Là, vous venez d'écouter un peu le surgissement de l'œuvre restée étranger dans son quotidien.
Moi, j'avais envie de revenir avec toi, Barbara, parce qu'on est quand même, nous, on est quand même déjà un peu âgés maintenant, ça c'est le temps qui passe. Mais tu fais partie des premières personnes qu'on a sollicitées pour la R22, tu es quasiment voilà, les toutes premières antennes, parce que tout à l'heure on discutait avec Guillaume de la durée dans le temps des antennes, donc rester étranger, c'est dans les toutes premières antennes qu'on a créées. Et je me rappelle que c'était aussi une. Pareil, nous, on ne savait pas trop ce que c'était qu'une radio, et vous, vous saviez pas trop comment non plus la fabriquer, mais on s'est posé une question qui était un peu similaire, bien que différente, de ce qu'on a discuté juste avant avec Liloer, qui était d'essayer d'archiver, d'écrire de manière vivante l'histoire d'une forme de communauté, à la fois en évitant de l'exposer, en étant aussi conscient de tous les dangers d'une exposition, de l'exposition de gens en situation de précarité ou en situation dite illégale sur le territoire, non seulement pour leur des risques directs de type policier, mais aussi tous les risques qu'après on a eu de cesse d'ailleurs de rencontrer d'extraction de leurs images de leur corps et donc c'était une question quelque chose qu'on discutait déjà à l'époque et l'outil radiophonique s'est imposé comme un outil à la fois pour représenter sans représenter mais aussi dès le début je trouve qu'à rester étranger le fait de brouiller les pistes et de jouer a été quand même très présente presque depuis les tout premiers sons tout en étant une antenne polylinguiste où on passe son temps à traduire des choses dans un sens et dans un autre.
C'est vraiment la jachère pour moi, l'espace sonore, parce que personne dans la famille ne sait comment il faut faire, sauf maintenant Hassan Abdallah qui a fait une formation, mais qui ne s'intéresse plus vraiment à l'antenne restée étranger parce qu'il a ses propres projets de création sonore. Donc c'est un peu comme faire la cuisine en jetant des ingrédients dans une casserole avec beaucoup de d'intérêt pour en tout cas me concernant pour les voix et pour cette mémoire aussi de comment on est entré dans la langue et de comment on est entré oui parce qu'en fait en réécoutant les séquences de 2017 par exemple de quand Hassan me raconte comment il est arrivé à Taranto, il dit Taranto et toutes les autres séquences, et puis quand j'ai des discussions aujourd'hui, quand il donne des cours de français à la maison à Ousmane, et qu'il lui explique la différence entre plusieurs nuances de sens d'un même mot, c'est là que la radio, c'est là que les enregistrements en fait, peuvent nous ramener au sein de l'expérience, de ce qu'on a pu expérimenter aussi et qui nous a... amené vers le format de la famille, en fait. Parce que ça n'a pas été une décision, la famille, en fait. Le format est. C'est imposé. Parce que des relations véritables se sont nouées entre les personnes. Donc ce n'est pas une blague. cette famille. Donc, d'ailleurs, je dois rentrer rapidement demain matin parce que la vie familiale impose ma présence.
Oui, je voulais faire une transition et aussi pour donner la parole à Mamie Kaba de Bureau de déposition qui est avec nous, qui participe aussi à un projet donc qui va nous présenter. Mais il y avait quelque chose qui me semble important aujourd'hui parce qu'on a, ça fait pas mal d'années qu'on est un certain nombre à être impliqués dans ces expériences-là. C'est, on en parlait tout à l'heure, c'est que on arrive à un moment donné où les gens dans des modes de relations qui sont des modes de relations qui prennent du temps, qui prennent beaucoup d'énergie, qui comportent des risques, qui sont demandeurs de méthodes. Je pense que Barbara, tu es sollicité, nous aussi, dans des écoles, à plein d'endroits, les gens, ils veulent des méthodes. Ils disent, mais comment on fait pour travailler avec des étrangers sans papier? Et puis, s'il vous plaît, un peu vite, parce que j'ai pas trop envie de me galérer non plus. J'ai envie d'être content qu'ils soient régularisés. Et j'ai envie de pouvoir les mettre sur un plateau aussi assez rapidement. J'ai dans mon film aussi. J'ai envie d'avoir le bénéfice, d'ailleurs, qu'ils soient dans mon film. Mais j'ai pas envie de passer non plus des années. Et en général, en s'adressant à des gens qui ont de fait passé des années. Avoir des relations avec des gens de plein de nature, avec beaucoup de difficultés et de joie aussi. Mais je voulais parler de cette chose-là, de ce désir, par rapport aux expériences qu'on va parler ce soir aussi, du paradoxe d'avoir donné l'impression à des gens qu'on a développé des méthodes, alors qu'il s'agit de projets extrêmement situés, avec des gens très particuliers, et que c'est pas du tout quelque chose qui a une visée de reproduction ailleurs, pour le coup. Tout à l'heure, on parlait de pouvoir inspirer d'autres gens. Là, effectivement, chaque fois qu'on doit reconduire des expériences de solidarité radicale comme celle-ci, il n'y a pas de méthode, même si on doit dire qu'il y a des gens qui ont obtenu la possibilité de rester sur le territoire, et on parlera de dans quelle manière en fait les usages du droit d'auteur ont été tournés pour pouvoir mener à un droit d'être sur le territoire. Il s'agit en tout cas pas du tout d'une méthode générique, mais bien en fait d'une expérience qui demande à chaque fois d'abord de la présence et d'abord des nécessités partagées, quoi.
Moi, j'aimerais bien vous lire, parce que nous avons mis encore une fois par écrit dans la charte éthique de la famille restée étranger, et surtout à l'intention donc, du CNAP et des personnes qui rentreraient en contact avec l'expérience, une forme de quand même de méthode que je peux vous lire. Comment on entre dans l'expérience? On entre dans l'œuvre par immersion, comme un sachet de thé dans une tasse d'eau bouillante, et on infuse. Quiconque séjourne dans l'œuvre en devient co-auteur et rejoint non sans friction l'espèce de famille qui s'y trame. L'entrée se situe sur un seuil, dans une transition entre le dedans et le dehors, à califourchon sur une frontière ou dans un sac de riz transporté à bout de bras, car rester étranger s'enracine et pousse dans l'écart entre deux territoires, c'est sous un pont, c'est dans un renfoncement au bord d'une nationale, c'est au fin fond de la nuit, c'est au pied d'un immeuble. Dans cet écart maintenu par l'implantation d'un habitat précaire, qu'on rencontre l'œuvre sous l'apparence d'une personne qu'on n'attendait pas. Une personne dont la société semble ne rien attendre, une personne qui n'est pas à sa place. C'est dans cette rencontre imprévue, qui n'est ni désirée ni préméditée, que se situe le début de l'œuvre et sa progression. On peut entrer volontairement par l'action. Une action qu'on rejoint ou qui nous incorpore. Rejoindre l'action se fait avec les bras, à pied, à vélo, au téléphone, en écrivant à plusieurs mains sur une seule page, en s'asseyant dans la salle d'attente d'un tribunal, en essorant une serpillière dégueulasse. On peut entrer en cédant quelque chose de fondamental, son propre nom, sa famille, sa maison, son lit, son œuvre, ou bien en prenant quelque chose de fondamental, comme on dit en tamoukik, « Awer lolak ». Prends-moi la main.
Alors, moi, je n'ai pas de thèse à lire, mais quand même, je vais répondre quand même par rapport à ce que tu dis, Olivier. C'est très intéressant de mettre les choses dans le contexte. Et nous, il n'y avait pas une trame, il n'y avait rien qui était tracé par rapport à ce qu'on a fait avec la radio R22. Et même au sein de l'association du groupe Bureau des dépositions, enfin, il n'y avait rien qui était tracé. Donc c'était en 2017, comme je le redis, dans un squat enfin, qui habite l'espace universitaire de Grenoble. Et donc il y a une dame qui s'appelle Sarah Medjian, qui est chercheure à l'UGA, Université de Grenoble. Et une autre personne aussi, une dame qui s'appelle Marie Moreau, elle est artiste plasticienne. Et donc Sarah était dans la quête, dans sa quête de sa recherche, tout ce qui est immigration, géographie, territoire. Et Marie Moreau aussi dans tout ce qui est art plastique. Donc, quand on fait par exemple un croquis, une carte fin de la France ou c'est pas des frontières, donc sur le papier pour Marie Moreau, c'est de l'art plastique. Tu vois, donc on transpose, donc c'est de la plastique. Donc voilà le lien entre Sarah, qui est géographe, qui n'a rien à voir avec Marie. Donc voilà le lien entre Sarah et Marie. Et donc nous, nous étions dans cet espace au patio solidaire qu'on a habité. Et donc on était, moi par exemple, je me questionnais sur quelle est la place du corps de l'étranger en France. Parce que je voyais que je ne me retrouvais pas et que j'étais résigné à une seule identité de la demande d'asile. Et que moi, je sais que je n'ai pas qu'une seule identité. J'ai d'autres identités, multiples dynamiques comme tout un chacun. Mais on nous résigne dans cette identité. Donc nous, moi, j'étais dans cette quête-là. Je me posais beaucoup de questions. Et les 10 autres co-auteurs aussi se demandaient enfin, différemment en fait, ces questions-là. Et donc, on s'est retrouvés enfin, par cooptation. Sarah Mediamari qui dit qu'elles vont passer dans l'espace, le patio. Et donc, nous avons retenu le rendez-vous. Les personnes qui étaient intéressées aux deux parts, on était nombreux, je ne connais même pas le nombre. Et donc, on a tous essayé, voilà, on a fait des dépositions, on a écrit, et on s'est vu, on a parlé plein de choses. Et après, donc, la trame, voilà, elle a commencé à se forger petit à petit. Et finalement, on était réduit à 10 personnes. Et donc, la rencontre avec la R22, comme disait Olivier tout à l'heure, dans l'objet de la R22, c'est notamment dans la recherche des formes. Enfin, tout ce qui est sonore aussi. Et donc, nous, à cette époque, en 2019, notre groupe s'appelle le Bureau des dépositions, ce n'est pas l'œuvre. Donc, au sein du groupe, on fait des œuvres. Et donc, on s'est rencontrés sur une œuvre qu'on a fait en 2019, l'exercice de la justice spéculative, dont Julie Van Neslan a fait enfin, le lien avec Marie Moreau, pour qu'on en vienne là. Et donc, autour de ça, il y a des questions qui ont été touchées, notamment la politique, tout ce qui est sur la restitution de l'héritage culturel africain et tout ce qui est aussi la place du corps de l'étranger en France. Et comme disait Barbara tout à l'heure dans ton récit, que enfin, la famille restée étrangère est ouverte aux personnes malades, aux corps malades, personnes qui ont eu des souffrances, aux personnes qui sont exploitées illégalement, aux personnes, etc. etc. Et donc, nous, on s'est retrouvés autour de cette forme. Et donc, la forme en 2019, c'est créer une palabre, enfin, une assemblée. On a créé une assemblée et donc, on a essayé de trouver une forme. Donc, il n'y avait rien qui était écrit. Donc, on a retravaillé, on a fait des ateliers en résidence. Et quand on était en résidence, c'est là qu'un des co-auteurs a été expulsé en Espagne. Et donc, ça fait que l'œuvre, elle est sabotée. Et donc, ce sont des questions aussi que la radio R22 s'interroge sur des œuvres fragiles, notamment le 24 juin à la Maison des étrangers. On a justement fait cette antenne sur les œuvres fragiles. Et donc, du coup, l'œuvre, le bureau de déposition s'inscrit dans ces œuvres qui sont fragiles, donc avec des corps fragiles, notamment nous qui sommes des demandeurs d'asile, et Sarah et Marie qui ne se retrouvent pas par rapport à toutes ces thématiques. Et donc, la trame, elle a été tissée. Voilà, en 2019, on s'est vu autour d'un plateau radio. Et voilà, donc j'ai vraiment voulu intervenir par rapport au contexte des choses, quoi.
Oui, moi, ce qui m'avait marqué, parce que je pense qu'effectivement, il y a des questions qu'on partage, pour ceux qui s'intéressent en tout cas aux possibilités de libre circulation et de vivre où on a besoin et envie de vivre. Moi, c'est une chose qui m'intéressait, comme pas mal de gens impliqués dans ces questions-là, quoi, qui m'intéressait, qui me préoccupait, qui me travaillait. Barbara parle de ce qui nous empêche de dormir, et on peut pas non plus cacher que voilà, des choses nous empêchent de dormir. C'est aussi comme ça qu'elles habitent en nous. Mais à côté de ça, ce que j'ai trouvé assez remarquable en découvrant un bureau de déposition, c'est qu'il y avait une double proposition, puisque ça devient des performances qui ne peuvent exister que quand tous les co-auteurs sont rassemblés. Donc il y a une espèce de conditionnalité de la présence pour que l'œuvre existe. Donc on ne peut voir le travail du bureau de déposition qu'en assistant à des performances. Et ce qui me semblait extrêmement intéressant et judicieux, c'est qu'elles étaient à la fois constituées d'une trame écrite, qui sont des... une lettre à la justice et une série de pièces jointes où chacun, donc, de ce mail principal, donc c'est un peu l'inverse de la manière dont la justice nous parle. C'est une réponse donnée à la justice, mais qui n'est pas une demande, mais qui était un acte de faire justice, donc soi-même, et donc d'additionner des pièces jointes, qui sont des témoignages de plusieurs sortes. Mais au bout de ça, ce que j'avais trouvé très particulier, moi, quand j'ai vu la performance à Marseille, j'avoue qu'il m'a énormément... touché, ou quoi. Moi, je crois que je pas cacher que je crois que c'est l'œuvre la plus juste que j'ai jamais vue de ma vie, en fait. Et c'est mon métier, c'est l'œuvre la plus précisément réalisée dans la forme, puisqu'en fait, au milieu de ces témoignages là, chaque chose était débattue sous la forme d'une palabre improvisée, ce qui rend le spectacle proprement irreproductible. Et ça, moi, comme c'est une espèce de vraie réflexion dont je parlais, c'est-à-dire les pratiques d'extraction et comment, quand on voit quelque chose, on peut l'extraire, le reproduire. Là, il y a une partie qui résiste complètement à l'extraction parce qu'elle est à la fois, il y a toute une partition qui vient être rompue par une espèce de discussion de l'argument qui vient être posé par l'un des membres, par tous les autres membres.
Oui, tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, je l'ai un petit peu expliqué le contexte et je disais que c'est une immatérielle. Et donc l'immatérialité, elle se situe par rapport au concept. Et le concept, c'est l'idéologie et tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut essayer de réfléchir. Et donc nous, on a créé une forme, c'est-à-dire un demi-cercle où on a dit qu'on rejette la justice manquante. Donc on s'est dit qu'il n'y a pas de justice, parce que s'il y avait de la justice, on allait pouvoir quand même calculer nos autres identités que j'ai parlé tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec l'identité d'un demandeur d'asile. Et donc, on était focalisé vraiment sur ça. Et ce qui est arrivé à la suite, c'est quand, par exemple, la naissance de l'Église, au fait que donc l'Église, déjà en grec, en latin, ça veut dire assemblée. Donc, du coup, nous, on a voulu repousser cette justice manquante. Donc, on a créé un demi-cercle. Et avec aussi, on a beaucoup appris aussi avec la R22, parce que comment utiliser un micro, la hauteur, la luminosité aussi, ça nous a beaucoup aidé. Et comment aussi chercher la justice manquante. Et donc, notamment, les techniciens de la R22 nous ont beaucoup aidé aussi à trouver cette place manquante, parce que on a une espèce de micro qui est arrêté où on s'adresse, on lit nos pièces à conviction. Donc, on s'adresse à une justice manquante qui n'est pas là, quoi, qu'on repousse. Et donc, quand on crée ça, il y a des dépositions qu'on lit de temps à autre, qu'on passe pour lire devant ce micro, qui est la justice manquante. Et entre autres, il y a des palabres qui circulent, parce que nous, on ne peut pas nous remplacer. Donc c'est pourquoi quand on est sur scène, on ne fait pas du spectacle, on ne fait pas de l'animation, parce que sur nos vies, c'est pourquoi c'est intéressant, Barbara, ce que tu dis. C'est une vie réelle. Tu ne peux pas substituer, par exemple, Prince ou Nico de ce qu'elle a vécu par rapport dans son parcours de vie. Moi aussi, on ne peut pas substituer, quoi. Donc, tu ne peux pas faire ça comme une représentation. C'est impossible. Donc, nous, quand on est sur scène, on est des auteurs, on est des co-auteurs. Et donc, du coup, on raconte nos vies. Et c'est ce qui est intéressant par rapport à le fait de s'appuyer sur le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la création artistique, qui n'a pas de statut, qui dit que tout le monde peut être auteur, co-auteur, entamer un processus de création. Et donc, il n'y a pas de loi. Et donc, du coup, nous, on se focalise sur ça pour repousser notamment, justement, le droit des étrangers et le droit d'asile.
Oui, peut-être. Je veux juste préciser, peut-être. Oui, non, c'était pour préciser, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, ce biais, c'est que l'un des points d'appui du bureau de déposition, qui a été aussi basé sur... plaidoyer pour une jurisprudence de Patrick Bernier et Olive Martin, qui est un projet en fait qui examine la particularité du droit d'auteur dans le droit européen, plus qu'en fait à la fois quelqu'un qui est en situation qui est un réfugié est censé ne pas pouvoir travailler quand il est en France, mais en fait il peut pas travailler de manière salariée, mais bien sûr il peut percevoir des revenus en tant qu'auteur, plus qu'en fait le droit d'auteur est un droit universel. Et donc, il y a déjà en fait un premier aspect qui est un mensonge. C'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas percevoir de salaire, mais ils peuvent percevoir des droits d'auteur. Et de là, en fait, se tisse une jurisprudence qui a été examinée par des artistes et qui a été exploitée par le bureau de déposition et par d'autres, et cette jurisprudence, c'est d'utiliser en fait le droit européen qui est attaché en fait à la Convention de Genève et aux droits de l'homme sur l'interdiction d'interrompre un processus de création artistique et culturelle en cours. Et qu'un groupe, donc, y compris de réfugiés, se constituant comme œuvre processuelle en cours, ne peut donc pas être interrompu. Ça inclut le fait qu'on ne peut pas expulser un des membres au risque d'interrompre un processus artistique en cours. C'est ce paradoxe-là qui est cette jurisprudence-là et cette loi contre la loi qui est exploitée comme un biais assez puissant pour opposer donc le droit d'auteur à ce qu'est le droit d'asile aujourd'hui et qui est un outil assez intéressant dont on a essayé aussi à travers la communication de cette expérience-là de polliniser ce savoir, mais je voulais souligner que chaque groupe qui va travailler à partir de cette trame-là le fait d'une manière différente, et là par contre c'est pas une méthode au sens que ce que Bureau des positions a inventé ou ce que Restez étrangers invente, ce ne sont pas des méthodes, par contre il y a effectivement un savoir au milieu de tout ça et une espèce de jurisprudence qu'on essaye de disséminer à travers des articles, des émissions, pour que d'autres gens se saisissent de cet endroit-là et rappellent en fait qu'un réfugié peut tout à fait travailler, ou une réfugiée peut tout à fait travailler en France et être payée en tant qu'auteur ou autrice. Et ça, c'est une chose très importante pour apporter des soutiens à des personnes et défendre leurs droits dans un processus de création qui est à même de pouvoir, en certain cas, interrompre les logiques d'expulsion.
C'est là où l'œuvre aussi du bureau est de Restez étrangers à son forte, c'est qu'elle fabrique aussi de la justice sur différents plans et différents niveaux. Et au moins trois, quoi. Donc un niveau déjà quoi, institutionnel, quoi, et vraiment juridique, avec le bureau des dépositions en travaillant à créer une jurisprudence avec l'œuvre, donc qu'elle fasse précédent en fait à partir d'un cas où l'œuvre en fait est attaquée lorsque l'intégrité de l'œuvre elle est attaquée lorsque certains de ses membres ne peuvent pas être présents pour y participer. Donc là il y a tout un travail avec aussi des spécialistes du droit, des avocats pour mener en fait pour mener un procès, enfin le terme exact.
Une requête.
Il y a ça, il y a aussi le fait en tout cas de travailler, de fabriquer de la justice, c'est ça, en pouvant rémunérer aussi des personnes qui ne peuvent pas être rémunérées avec le droit en tout cas du territoire français. Et aussi qu'il y a une partie qui peut être, parce que comme tu le disais Barbara aussi, même pour l'obtention des papiers en fait ne fait pas tout. Et là où ça fabrique de la justice aussi, ces œuvres-là en fait c'est dans le fait d'être ensemble et de fabriquer aussi des choses ensemble et de se retrouver. Et ça, c'est aussi un point un peu fondamental parce qu'il constitue aussi le socle et l'énergie et la force pour mener aussi les autres chantiers en face aussi d'institutions et de la justice quoi, institutionnelle. Et pour faire aussi une transition, parce que c'est aussi ça avec un peu l'idée aussi avec la R22, d'aller... quand il y a des pistes comme ça qui nous parlent, qui nous outillent et qui nous permet aussi d'avancer, c'est de se partager aussi de comment chacun et chacune fait aussi de leur côté. Et ce soir, on va appeler au téléphone Cynthia Montier et Abdouladi Yassouef qui... sont à Strasbourg et qui vont aussi nous témoigner d'une expérience qui fait écho, et notamment particulièrement avec le bureau des dépositions, puisqu'ils ont aussi, enfin voilà, vous êtes aussi en contact et ils ont partagé des outils similaires et avec aussi des signatures aussi communes quoi, pour travailler leur œuvre. Donc faire une discussion au téléphone, un débat, techniquement, c'est un peu compliqué, mais on peut quand même poser quelques questions. On va voir comment ça fonctionne. On va en tout cas, c'est sûr, avoir un témoignage du cheminement qu'ils sont en train de traverser. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va tenter, on va voir si on arrive à tenir une discussion.
Je crois que c'est en anglais. Je vais faire une traduction simultanée, c'est ça?
Et si même tu peux...
Quoi, en alterné, quoi, je veux dire.
Ouais.
Hello.
Hello, Abdul.
Hello. Ça va?
Ça va, et vous?
So we hear you very well. On vous entend très bien.
Ok. Bon, je fais une petite introduction en français. Olivier va la traduire en anglais. Et puis après c'est à vous. Donc on vient de partager là. Je pense que vous nous avez écouté juste avant et on vient de partager un peu le cheminement et des récits et à la fois ce que on travaillait, ce qui était au travail avec les œuvres du Bureau des dépositions et de rester étranger, notamment les questions de fabriquer de la justice, de représentation, de passer du temps ensemble, de prendre du temps pour construire une communauté et pas dans une perspective extractiviste, mais d'en faire partie tout simplement en fait et d'utiliser le champ artistique pour créer de la vie quoi et du commun dans une logique qui est non propriétaire mais d'utiliser des outils qui sont disponibles dans ce champ là pour créer des espaces de vie.
So we just talked before with two collectives, so Bureau des dépositions that you, I think you know them from Grenoble, and Resté étranger from Saint Denis, and we try to address different kind of questions. One of them is the way to produce justice, not to only accept existing justice but creating some new conditions for justice, but also trying through that not to to create some representation in the sense of in an extractivist sense, but trying to create more community and based on presence and time that we are sharing together. And we'd like you to share with us your own experience of what you try to do through what you create in Strasbourg, inspiring, I think, partly by what Bureau des Dépositions did, I think so. So I think it would be nice to share it using that idea of producing justice, creating community, and also reflecting about the risk of extractivism from representation in the world of art.
So Abdullah, I don't know, maybe you want to start to...
Yes, hello, I can start. Okay, hello, my name is Abdul Hadi Yasuyo. I am living now in Strasbourg, I am from Russia. My nationality is Chechen.
So mon nom est Abdullah, je vis actuellement à Strasbourg, mais je viens de Russie et ma nationalité est tchétchène.
Well, we met some 2 years ago in Strasbourg. We have been talking a lot about the important necessity to believe when your freedom had been taken away or when you are forced to move.
Donc on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans et j'ai passé beaucoup de temps dans cette ville à discuter de cette situation où que faire lorsque ta liberté a été volée et que tu es forcé de partir.
We started to work together, first by writing and sharing image of displacement. We want to address the question of exile.
Donc on a commencé à travailler à partir d'écrits et d'images que j'ai partagées autour de la question du déplacement et j'ai oublié la fin. Mais voilà, en tout cas, on a commencé à travailler à partir de ça il y a donc 2 ans.
From individuality, the many different practices of survive your own itinerary, from your own experience and from shared knowledges, but also to show how sensible and technical it can be.
Ouais, donc on est parti de témoignages et de positions très individuelles pour partager en fait les particularités de chacun des parcours, pour essayer aussi de partager combien ces parcours de survie avaient des dimensions aussi très pratiques et même techniques. Il fallait presque inventer des choses pour chacun d'entre nous. C'était pas une chose qui était générique.
We had the intuition to make it public as spoken archives of non-verbal or immaterial facts and practices.
On a eu l'intuition qu'il fallait à la fois rendre public ces, comment dire, ces expériences, et qu'à la fois ces expériences qui sont de nature immatérielle, pour pouvoir les à la fois ouvrir un peu les yeux sur ce qui se déroulait.
The voice and perform in all appropriated way the stolen migration narratives and all the aspects of the law that they depend from.
Oui, c'était aussi montrer comment, en fait, combien étaient fragiles ces situations de liberté volée et tous les aspects de loi dont ils dépendaient. Donc rendre visible un petit peu toute la dimension administrative de cette situation.
How it impacts on your identity and how complex it is on the middle of this massive machine.
Oui, donc, et donc là, comment ça impacte sur ton identité d'être pris dans cette immense machine judiciaire et donc administrative.
Well, Cynthia?
Yeah?
You want to explain a little bit?
Yes, but I think that this part was yours actually, because you wanted to say when we talk, you wanted to say about the deportation center, you know. But if you want, I can continue as you prefer.
Actually. Yes, you can talk. It's okay.
Okay. So yes, so so I was saying that in Strasbourg, then when we met with Abdullah, we wanted to start some radio project with a collective here that is called Horizon.
Oui, donc à Strasbourg, lorsqu'on s'est rencontré avec Abdoulaye, on a voulu faire un projet collectif de radio avec un projet avec un collectif qui s'appelle Horizon.
And, for Abdullah and for me, it was very important to try to share all those experiences that actually he experienced. But as a friend, that I was close from him also.
Avec Abdoulaye, c'est important pour nous de partager en fait son expérience, mais aussi des expériences de d'amis à lui qui lui avaient raconté en fait.
And we wanted to show it in another way, without make it like sound too much different from the reality that it is actually. And exactly at this moment. Abdullah was put in a retention center in Strasbourg.
Donc on voulait essayer de le représenter assez, de manière assez proche en fait de ce que c'est en réalité, et à ce moment-là en fait Abdullah a été placé en centre de rétention à Strasbourg.
Then I'm sorry, then Abdullah, I'm a bit speaking for you. Then you were transferred in you were transferred in Italy. It was last year.
Yes, it was last year.
Et donc Abdullah a été transféré en Italie l'année dernière.
And so what was quite funny at this moment, not funny, but I don't know too much how to say in English. I mean, drôle, incongru. We found a stone at this moment, an onyx stone.
Donc à ce moment-là précis, ce qui était drôle, mais plutôt dans le sens de incongru, c'est qu'on a trouvé une pierre d'onyx.
And this onyx, in popular belief, is actually linked to the memory of places, and it's supposed to represent the eye or the mirror of your own inside dark zones.
Dans les cultures populaires, l'onyx est censé représenter la mémoire d'un lieu, l'œil en fait des zones les plus sombres.
So I wanted to give to you, Abdullah, this stone when you were in retention center, and it was considered as a cold weapon by the policemen of the retention center, so I couldn't.
J'ai essayé de te donner cette pierre, Abdoulaye, quand tu étais en zone de rétention, mais ça a été considéré comme une arme froide par les autorités du centre de rétention, comme une arme en tout cas.
So we found that it was quite surprising to see how powerful could be an innocent object of belief like this, and how it could have been believed dangerous as immaterial as it is from the authorities.
Donc on a trouvé étrange que les autorités le considèrent aussi dangereux, un objet aussi innocent et quelque part immatériel comme cette pierre d'onyx.
So at this moment exactly, we thought like, yes, this is our concept, the power of immateriality. And we thought that our project would be named Karma and would be as powerful as an immaterial patrimony.
Et à ce moment-là, on s'est rendu compte de la puissance de cette forme d'immatérialité. On s'est dit que notre projet, qui s'est appelé par la suite Karma, allait être basé sur la puissance justement de l'immatérialité.
So as you know, probably the Karma is in the collective imaginary is some power or some beyond strength that comes on you.
Et comme vous le savez peut-être, dans la connaissance populaire, le karma est cette force qui vient vers toi en fait, qui vient vers soi en fait, depuis l'au-delà.
And it comes on you from the beyond as a consequence or some kind of retroactive spell that results from your own acts and from your own decisions in your life.
Voilà, c'est à la fois une force qui vient de l'au-delà, mais qui est une force qui est rétroactive, qui vient de l'au-delà, mais comme réponse en fait à nos propres actes, à notre propre puissance.
And somehow, at this moment, without then, if this occult strength of the karma exists, then it's really like. It's really strange also to see that it can remind you of the power of administrations as an occult strength.
Ouais, comme une force occulte, la force occulte du karma nous a aussi rappelé la puissance de l'administration, qui est aussi une puissance de nature occulte.
So, in the karma, actually, in the origin of the word in Sanskrit, it refers to an active power of your actions and how it can actually influence your existence from your own experiences.
Mais donc en sanskrit, le karma est une puissance qui provient en fait de notre propre existence et qui influence cependant en fait notre existence. Donc il y a encore une fois cette idée d'un effet qui nous est à la fois extérieur et qui pourtant est la conséquence de nos propres actes.
So then without, yes, we are right in the heart of the topic and then our intuition was to turn this karma, to make it ours and to make it ours from our choices and not from a judgment that we will be the subject of.
Oui, donc l'idée de karma, du coup, est retournée aussi, est une manière de repenser la question de la justice pour considérer que notre situation dépend aussi de nos actes et pas simplement de décisions qui nous sont extérieures.
And then the act can be also a performance, and we are legitime to perform this.
Voilà, donc on a pensé en fait que l'acte en question pouvait prendre la forme d'une performance. Mais c'est karma, justement. Mm. Thank you.
Yes, I want to say that when we begin this project, it's not just an idea help just to me or justify myself. This project addresses to many roots.
Oui, quand on a commencé le projet, ce n'est pas uniquement pour adresser ma situation personnelle ou seulement en fait parler de moi, mais ce projet a beaucoup de différentes racines.
When I was placed in the retention center first time, it gave me even more idea and more for the idea with no tricks to give everyone what they deserve as an artist, as author and as an asylum seeker.
Cette réflexion aussi a permis de comprendre à quoi ça pouvait servir en fait cette réflexion, ce constat, cette imagination à différents niveaux en fait, autant comme un artiste qu'un auteur que comme un réfugié. Réfugié.
And it gives also a chance at what you want and if it can be done with the idea of something that's fantastic. So if it can give some idea, if it will work for with something like that, then it's fantastic.
Oui, du coup, là, ça donne aussi la possibilité de sentir qu'une idée peut peut se réaliser de manière fantastique, pour donner des résultats qui sont fantastiques, à partir de vraiment cette pensée que c'est du karma, donc cet acte en fait de ce qui va se dérouler dépend aussi des actes qu'on produit soi-même. C'est une idée qui, voilà, qui, dont j'ai vu la potentialité quand j'étais en centre de rétention.
To show people something that looks for the first time has a different side, you need to look at it from different side.
Et donc voilà, c'est une chose qui nécessite d'être regardée de différents côtés ou selon différentes perspectives.
And I'm glad to be an author in this collective work. First, the idea seemed not real, but don't close the book just by reading the first page.
Je suis heureux d'être un auteur de cette œuvre collective et qui n'est qu'à son commencement. Ne fermez pas le livre, on n'en est qu'à la première page. Thank you very much.
I have something.
Yeah, sorry.
Sorry.
Ah, come on.
Yes, it's just last thing that I want to say that I have something to tell. This project is experienced and not on purpose, but just by chance randomly on me. So it's all what I said. It's happening with me, not because I wished. So it's happening like this. So all of this is real.
Pour dire aussi, la dernière chose que je veux dire, c'est que ce projet est arrivé, c'est pas une chose que j'imaginais ou que je désirais, mais qui m'est arrivé par hasard et qui maintenant se réalise et qui est quelque chose, voilà, d'à la fois impossible à imaginer avant que ça arrive, mais maintenant c'est là. Cynthia, peut-être que tu peux aussi dire les conséquences de la réalisation du projet lui-même, du coup, qu'est-ce que ça a produit de faire de constituer cette œuvre immatérielle?
Yes, of course, with pleasure. We wanted to share with you the whole process, progress, but I think it's a long story. But this was important that you can understand, the karma dimension. But what happened is that Abdullah, I allow myself to sum it up,
yes,
to make a short version. So Abdullah, you were in Italy, and then at this moment, we wanted to use all of this correspondence because we had to work remotely.
Donc là, à ce moment-là, Abdallah était en Italie et on voulait utiliser donc voilà toutes les possibilités d'échanger parce qu'on devait travailler à distance.
And then finally, Abdullah, you were refused the international protection from Italy, and you came back in France.
Voilà, donc Abdullah, à ce moment, a eu un refus de protection internationale et donc est revenu en France à Strasbourg.
At this moment, we saw then, yes, okay, karma, we're gonna start this. Finally, it's gonna be real, and we're gonna just do our work actually.
À ce moment-là, on s'est rendu compte que ce projet Karma, on allait le faire pour de vrai, que ça allait devenir une œuvre.
But then we were invited to perform in Toulouse in the festival Printemps de Septembre in the Palais de Justice of Toulouse.
Et donc on a été invité à performer à Toulouse dans ce festival qui s'appelle le Printemps de Septembre au Palais de Justice.
And actually Abdullah, you were put again in retention center. The day, like some 2-3 days before the performance, I think.
Oui, donc et finalement Abdoulaye a été mis en de nouveau en centre de rétention 2 ou 3 jours avant de jouer cette performance à Toulouse.
So I went alone in Toulouse and I decided I will not. So we cannot do the performance without the co-authors. So I decided I would just testify of the situation for both of us.
Et donc, il n'a pas été possible de jouer la performance sans qu'on soit sans les deux co-auteurs, mais j'ai décidé de témoigner en fait de cette situation d'impossibilité.
And we wanted also people to understand how important it is and that you cannot have a performance without the two co-auteurs. This is not possible. You cannot replace someone.
Et donc, on voulait aussi que les gens comprennent que c'était important qu'on soit tous les deux là et qu'on ne pouvait pas remplacer l'un des deux co-auteurs.
So the very day after, I came back in Strasbourg and Abdullah, you called me when I was in the train and you said to me that you were free.
Voilà, juste le jour suivant la performance, Abdullah m'a appelé dans le train pour me dire qu'il venait d'être libéré.
So yes, and at this moment, actually, maybe Abdullah can explain that what the judge said, that regarding all of our projects, it was not possible to keep someone in retention. There was nothing that was legit to keep this person in retention, and that he had to miss, actually. He was forbidden to work.
Donc, en fait, le juge donc a dit qu'il y avait aucun motif pour le garder en rétention, mais qu'il lui était interdit de travailler.
And I'm trying to make it short, but yeah, the thing is that Abdullah, you were put in retention, but added to this retention, the prefecture ordonnance you to be transferred in Italy again.
Donc de nouveau, la préfecture demande au centre de rétention de le retransférer en Italie. C'est Dublin, c'est ça?
But he was freed actually. So after this, we still needed to avoid this transfer.
Voilà, donc il était libre à ce moment-là et on devait toujours continuer à éviter ce nouveau transfert vers l'Italie.
So yes, and as you can guess. Not easy to prove that you are an author when the right of stranger is, we could say, balancing the ongoings.
Oui, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas très facile de prouver que vous êtes auteur quand le droit des étrangers joue contre justement cette reconnaissance.
And, by chance, we were in contact and starting collaborating with the Bureau des Dépositions, with especially with Marie Moreau and Sarah by exchanging a lot.
Donc par chance, on était en contact avec le Bureau des Dépositions, on échangeait avec Marie et Sarah beaucoup, on correspondait.
And thanks to the work of Patrick Vernier and Olive Martin, that maybe I think you should know, I guess.
Oui.
We guess.
Yes. Donc grâce au travail de Patrick Vernier et Olive Martin, qui sont les deux artistes dont j'ai parlé juste avant, en fait, pour expliquer le plaidoyer pour la jurisprudence.
So Abdullah, you say to me this is wrong, but this gave us really a lot of strength to know that actually. Because yet to use it actually, I mean not to use it, but to have this also as a tool with you to defend yourself was very precious.
Oui, donc avoir tous ces outils pour pouvoir se défendre a été évidemment très précieux.
So then, Abdullah, you had the second tribunal, the administrative tribunal.
Donc Abdullah s'est présenté au tribunal administratif, qui est donc le deuxième tribunal.
But I don't know, Abdullah, maybe I'm speaking too much. You don't want to say because you were
well,
the justice.
Yes, sure. I can explain it. Well, after when I went out of the tribunal, after almost next some days, I had administrative tribunal.
Donc j'ai été au tribunal administratif voilà, quelques jours après.
And after tribunal, they said, wait, I don't know, 2 weeks, I need to wait for answer. And finally, we received the answer after 2 weeks, and the deportation like was cancelled. So we can say the Dublin was cancelled with the administrative decision from the tribunal.
Donc après donc 2 semaines, que j'ai dû attendre 2 semaines, en fait, la décision administrative, et finalement ils ont annulé en fait la décision de Dublin de déportation. Mais j'ai pas compris s'ils prononçaient une déportation dans le pays d'origine ou do you mean that they make a decision to break the Dublin decision?
Yes, the main decision of canceling was canceled.
Yeah, okay, donc les voilà. Yeah, I just don't get if that means that they decide not to suppress deportation to Italy, but meaning to a deportation to your country of origin, or just your possibility
no.
to stay in territory.
They was trying. They was trying, and they tried to deport me again in Italy, And the contest for administrative tribunal was that I don't want to go in Italy, and that because Italy already refused me international protection, I have negative there. So.
Ok, donc le tribunal administratif a décidé de casser la décision de le renvoyer en Italie puisqu'il avait déjà été là-bas et on lui avait refusé la protection internationale.
Ah, and there's something important that we didn't say is that yes, that sorry, Abdullah, I lose myself too because we would have forgot, I think, but this is there's too many things, so maybe we missing some things, but this is important that the the judge actually raised the legacy of being an author, and that regarding the main ongoing projects that we have together, that Abdulhadi you have actually sending you in Italy was not a legit decision.
Yeah. Donc, mais ce qui est très important et qu'on avait un peu oublié de dire, évidemment, c'est que le juge a reconnu, en fait, la légitimité du processus artistique en cours et que, donc, il n'était pas logique et légal de le renvoyer en Italie. Donc, il commençait à ce moment-là à reconnaître la légitimité de son existence en tant qu'auteur en cours de création.
And this, from the point of intellectual property, but also thanks to, and if you hear us, thank you again for your support, to all of our partners that wrote many, many letters of support saying that this was not right, this was not fair, and that they support us.
Donc il y avait cette reconnaissance en tant que... Cette reconnaissance elle venait en fait en tant que au titre de la propriété intellectuelle, donc du droit d'auteur, mais aussi grâce au soutien à tous les partenaires qui ont envoyé des lettres pour soutenir cette demande et dire que effectivement la demande d'extradition était illégitime et qu'ils en soient tous remerciés.
So we will not make a list, but also the partners that are welcoming us this year for all of our projects, actually. So this is, yeah, we hope that this is gonna be safe. And
voilà, on va pas faire une liste, mais il y a beaucoup de partenaires qui nous occupent cette année, et puis on n'a pas le droit de faire de publicité sur les R22 de toute façon. Mais voilà, on espère que ça va être safe. I just want to thank you too. I think we're gonna keep on the program, but thank for all you share and very nice, and we're very happy that what you engage have been get to a very good achievement, and we will keep on touch with what you are doing. So thank you very much.
Thank you.
Thank you very
thank
much.
Thank you, Abdelai. Ciao.
Yes, thank you very much, and we were very happy to be with you all.
Yes.
Ciao, ciao.
Merci Cynthia et Abdullah. Et l'idée, voilà, aussi de ce plateau, c'est de... Donc, on est en présence avec des personnes dans la ville où on se trouve. Mais aussi, à chaque plateau, on intègre soit des petites capsules sonores préenregistrées, soit des appels de personnes qui ne peuvent pas être là, dont on aurait aimé la présence, et qui sont aussi des graines qu'on sème pour des plateaux à venir. Donc là, il va y en avoir un à Strasbourg qui va se faire. Il va y en avoir un autre à Marseille aussi bientôt. À la fin du mois, on va à Milan aussi rencontrer d'autres membres de la famille restés étrangers. Donc c'est aussi pour ça, c'est un peu un petit rituel comme ça qu'on a dans un plateau. Et comme quoi, enfin non, rien comme quoi. En fait, on va continuer ça avec, mais il n'y a pas de traduction à faire. Et là, c'est voilà, c'est le dernier appel.
Ça, c'était juste pour montrer pourquoi je suis aussi bien payé par la radio, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'était pour justifier quand même ce statut très particulier, évidemment.
Et là, donc, on arrive, voilà, à la fin du plateau. On va avant de continuer la soirée avec Victor du Jam & Joint Sound System qui va passer du son jusqu'à minuit à peu près. Et on va appeler Claire Astier, qui a fait partie de l'organisation de l'Assemblée des communs à Marseille, qui est voilà, je crois que c'est la deuxième édition. Claire me corrigera si je me trompe aussi. C'est aussi une manière donc de prolonger, enfin d'élargir en fait les questions que l'on se pose à la R22, qu'on s'est posé aussi ce soir. L'Assemblée des communs, et ça s'est passé sur 3 jours. C'est un moment qui réunit à la fois des acteurs. Donc là, c'est à Marseille, donc à la fois des acteurs associatifs et militants sur la ville ou le territoire, mais également aussi des personnes qui travaillent ces questions de commun dans la justice, au niveau de l'écologie, dans les questions de toutes sortes de droits, et à différents endroits, quoi. Aussi bien donc institutionnels que citoyens, par le bas, militants. Donc c'est comme ça un grand rendez-vous qui fait écho aussi à des questions qu'on se pose à la radio. Et Claire donc va nous faire un petit rapport de ce qui s'est passé ces 2 dernières journées, de ce qui va se passer demain. Avant de terminer... Oui, très bien.
Je voulais juste dire, avant qu'on passe à cette dernière partie aussi, qu'avec Rester étranger, en fait... outre ce programme radio, on a tout un programme d'édition, parce que vous l'avez peut-être compris, Rester étranger, c'est une maison où les gens écrivent aussi. Il y a une très grosse, une très importante production littéraire, livres, affiches, éditions. Et donc l'une des réflexions, par exemple, par rapport à ce projet, c'est d'aller aussi vers inventer peut-être un outil d'édition sur mesure de toutes les productions qui ont été réalisées, qui sont donc des archives fragiles et spécifiques qu'on voudrait faire exister dans ces différentes langues. Donc ça, c'est montré aussi que, au-delà de ce qui a été évoqué juste dans la séquence précédente, de stratégie aussi par rapport au droit d'asile, il y a vraiment aussi une ambition d'accompagner des collectifs qui ont des productions littéraires, artistiques, performatives. C'est aussi le cas avec Bureau de déposition, et aussi de s'attaquer peut-être bientôt avec Rester étranger à la question du cinéma et de savoir comment représenter sans représenter, parce que voilà un outil qui typiquement nous pose d'énormes problèmes de ce point de vue-là, et dont on aimerait imaginer une manière de le dompter et d'en faire un outil dans nos standards. Et je voulais aussi dire, parce que c'est aussi une actualité de l'R22, que dans la prolongation de ce qui se passe dans cette plateforme-là, Mamie Kaba va nous rejoindre aussi depuis le bureau de déposition dont il reste membre, et va être l'un des animateurs de la radio à l'avenir. Donc c'est aussi il y a des dynamiques très concrètes qu'on essaie de mettre en place avec la plateforme d'accompagnement, de formation, comme on a reçu Hassan et d'autres, comme aussi la petite formation qu'a accompagné les très talentueux auteurs d'Iloer, mais aussi des choses peut-être plus sur le long terme avec Mamie, qui va nous accompagner pour animer des plateaux ici et là, un peu partout en France, avec la R22. Donc c'est pour se dire, voilà, créer la radio, c'est aussi s'attaquer à des questions très concrètes de comment, dans le temps, on s'accompagne mutuellement, parce que j'imagine que vous le pensez tous, et vous avez raison, en fait, c'est plutôt nous qui avons de la chance d'accueillir Mamie que l'inverse. Mais voilà, on va tirer le maximum de ce qu'on peut de son talent, mais c'était pour aussi, voilà, montrer que la radio existe aussi à ce niveau-là, quoi.
Allô?
Allô Claire?
Oui.
Tu m'entends bien?
Oui.
Super. Ça va?
Oui.
Ok. Super. Bon, nous, on est. Donc, peut-être que tu nous as écoutés avant. On sort d'un. Enfin, on sort. Non, on sort pas, mais on arrive en tout cas au bout d'un petit marathon radio.
Ouais.
Et je crois que toi aussi, tu sors d'un marathon là depuis 2 jours. Mais voilà, comme on sait que c'est chaud, l'ambiance à Marseille, on t'appelle aussi pour réveiller, parce que nous, on a encore deux heures de soirée qui continue, mais avec la musique et on va danser et tout. Donc,
cool.
Donc tout se passe bien.
Et du coup, là, vas-y, je t'écoute, Simon.
Et voilà, là on t'appelle pour ouvrir aussi un peu toutes les discussions qu'on s'est partagées depuis 17h aujourd'hui, qui nous ont fait traverser en tout cas les notions de commun depuis plusieurs endroits, notamment en tout cas d'utiliser des outils issus de quoi, des pratiques artistiques, vraiment au sens très large, quoi, pour fabriquer de la justice, de la vie, de l'entraide, des outils de solidarité concrète. Et on voulait avec toi un peu finir cette deuxième séquence avec un petit témoignage de ce que vous avez traversé durant ces deux jours. Mm-hmm. Et en tout cas, toi, peut-être de comment tu l'as traversé aussi depuis ton endroit. Et voilà.
Et est-ce qu'on y est là maintenant ?
Là, on est en live.
Ah, ok, d'accord. Alors là, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Ouais, on t'entend bien.
Ouais, vous entendiez peut-être le brouhaha aussi.
Ouais.
Ouais. Est-ce que c'est gênant ?
Non.
Non, c'est pas gênant. Alors, on est boulevard National à Marseille, dans un restaurant qui s'appelle Achouria, un restaurant syrien. Et là, en fait, c'est un peu la décompression de la journée. Il y a une partie des personnes qui ont participé à cette assemblée des communs qui sont là, on mange, et donc effectivement c'est assez étrange là de vous parler. J'avoue que je vous écoutais d'une oreillette et puis de l'autre j'étais un peu plus en train de manger des mezze, et je suis avec une avocate qui s'appelle Amel Bounasseur et qui est avocate ruraliste. Et donc aujourd'hui on a toutes les deux et avec d'autres personnes évidemment, On a mené le premier atelier de culture juridique dans le cadre du laboratoire européen d'entraide juridique pour les communs. C'est comme ça qu'on a intitulé notre labo. Vous m'entendez ?
Oui, très bien, très bien.
Voilà. Et ce laboratoire, il est né il y a 2 ans. Il est né du Commons Camp. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est le Commons Camp, mais en gros, c'est un rassemblement international de personnes qui traitent, qui pratiquent ou qui sont intéressées par les communs. Et ce Commons Camp a eu lieu à Marseille il y a 2 ans. Et au cours de ce moment collectif, on s'est rendu compte que beaucoup, beaucoup de personnes avaient des pratiques, réfléchissaient communs, voilà, mais tout à coup étaient inquiétées par l'État, était inquiété par le champ privé et avait des besoins de protéger ses communs et se tourner vers les juristes, vers les soi-disant experts pour trouver des manières de se protéger, de se défendre. Et donc de là, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée une espèce de collectif ou de réseau de personnes qui avaient peut-être des ressources sur les questions juridiques à mettre au service des communs. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai écouté ce que vous racontiez et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec ce qu'on s'est dit toute la journée, notamment la question de projets situés et le fait qu'il n'y avait pas de méthode générique. Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se tournent vers nous en disant bon ben voilà, nous là on est dans la super urgence, il faut absolument qu'on trouve une solution parce qu'on va être expulsés. Ou parce que la mairie va récupérer ce terrain, ou parce que telle pratique collective qui avait lieu dans tel endroit va cesser du fait de tel autre projet privé. Et en fait, on se rend bien compte qu'on peut pas répondre, il n'y a pas de méthode générique. Et par contre, on se rend compte aussi qu'on apprend à partir des expériences des autres et qu'il n'y a que le temps qui fait que on prend conscience de la réalité dans laquelle on est. On en tire des savoirs qu'on peut ensuite partager et d'autres personnes peuvent s'en servir. Donc, je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur la question du temps et de partir des réalités qu'on traverse pour pouvoir créer des savoirs et pouvoir identifier un peu, alors pas des méthodes génériques, mais en tout cas des méthodes qui peuvent être détournées et réappropriées par d'autres. Est-ce que vous voulez peut-être m'interrompre et poser des questions? Et puis il y a Amel qui est avec moi aussi là.
Peut-être que vous. Bah, déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions autour ici? Ok. Peut-être que tu peux nous raconter ce que concrètement en fait, parce que je crois qu'il y a, tu m'avais dit qu'il y avait plusieurs ateliers, mm-hmm. plusieurs groupes de travail, et peut-être ce que vous avez travaillé vous aujourd'hui.
C'est ça. Je vais passer peut-être la parole à Amel, mais il faut juste que je lui redise la question que tu as posée, Simon.
Il y avait différents groupes de travail, est-ce qu'on a traversé aujourd'hui? Uniquement sur l'atelier juridique, bonsoir.
Bonsoir.
Du coup, je suis désolée, la question c'était est-ce qu'on peut redire les ateliers qu'on a traités aujourd'hui dans le labo ou plus globalement au sein de la journée sur les communs?
Globalement, en fait, concrètement, un peu ce qui s'est passé vous aujourd'hui, quoi, de la manière dont vous avez travaillé, ce que vous avez traversé.
Ouais, carrément. Et ben, moi, je vais peut-être juste témoigner de comment je l'ai vécu. L'idée, c'était vraiment d'ancrer ce temps de travail dans un cas concret, dans une situation concrète. Donc, on est parti de l'après-m, qui est un mouvement qui s'est un peu organisé autour de la fermeture d'un McDo. Donc à Marseille, et l'idée c'était d'organiser un peu la suite de cette fermeture. D'abord, il y a eu une opposition à cette fermeture, puis après derrière, l'idée c'était de se réapproprier ce McDo et d'en faire un lieu en fait autour des questions alimentaires, notamment aujourd'hui c'est un lieu qui fait beaucoup de distribution. De autour de l'aide alimentaire, et puis l'idée c'est d'en faire à terme un lieu de restauration solidaire. Et du coup on est parti en fait des questions qui se sont posées concrètement à ce lieu, donc les questions juridiques toujours, donc les questions de propriété, de comment sécuriser en fait l'usage de ce lieu, les questions aussi de gouvernance, comment organiser les prises de décision, la structuration juridique de ce collectif, d'abord qui s'est organisé dans le cadre d'une lutte et qui après, derrière, suite à un petit peu, au fait que ce mouvement de lutte s'est un petit peu tassé, McDo a un peu cédé sur un certain nombre de choses. L'idée, c'était de se réorganiser, cette action collective, quoi. Voilà. Donc, du coup, on est parti en fait de ce lieu-là. On était dans ce lieu-là, de son histoire, de ce que ça porte, et du coup des objectifs et de l'action des communs, de ce mouvement, comment ce lieu est devenu un espace commun investi par les gens du quartier et au service des gens du quartier, quoi. Et du coup, voilà, il y a eu plusieurs outils juridiques qui ont été interrogés autour de la société civile immobilière, comment c'était un outil qui finalement s'est avéré peu ou pas très adapté, comment ils ont d'abord essayé de le hacker avant de se rendre compte que c'était pas du tout possible parce qu'il y avait un besoin de financement qui nécessitait un certain nombre de souscriptions. Enfin bref, il y a eu tout ça en fait, et du coup ça nous a permis de traiter plein de choses et de les ancrer, et surtout être au milieu en fait de ce lieu, et c'est ça qui était super, d'aller cuisiner, de manger, de partager un temps au milieu des colis d'aide alimentaire qui étaient en train de se faire, et enfin voilà. Donc c'était un peu cette méthodologie de partir de l'usage. Et puis, petit à petit, à identifier des problématiques qui sont assez communes et transversales à d'autres projets autour des communs. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, peut-être, c'est ça. Et voilà, puis après, l'après-midi, on a plutôt, dans un autre lieu, là, du coup, travaillé sur des problématiques juridiques qu'on a pu identifier à ce stade dans le cadre du labo, dont parlait Claire tout à l'heure, laboratoire d'entraide juridique pour les communs, et d'essayer de les nourrir toujours d'expérience des personnes qui étaient là, qui ne sont pas forcément des juristes. D'ailleurs, il y avait très peu de juristes en fait dans cette journée, et qui avaient tous en fait à leur manière rencontré le droit, mobilisé le droit, interrogé le droit, et voilà, c'était de nourrir en fait notre structuration, notre travail, et puis les échanges autour de ça. Enfin, voilà ce que je peux dire.
Merci. Allô ? Ouais, merci.
Ouais. Je sais pas s'il y avait des questions, mais je voulais juste ajouter qu'il y avait, la grosse thématique de cette première assemblée des communs, c'était la question de la démarche instituante. Restons-nous disséminés et continuons-nous à hacker, à détourner, à dévoyer les outils juridiques ou est-ce qu'on doit nous s'instituer pour essayer de rentrer dans le droit et de transformer le droit. Et on a eu d'ailleurs à ce sujet un gros atelier de création juridique en se posant la question de qu'est-ce qui fait que le droit change et quels outils, enfin, des expériences qui étaient présentes là durant l'Assemblée des communs. Et c'est aussi la vôtre puisque la plupart d'entre vous ont face à leur réalité, tentent de transformer le droit. On s'est vraiment posé cette question-là de la création juridique et de comment nous, on transforme le droit concrètement, comment on change le droit. Et c'était finalement un peu la conclusion de cette journée-là et celle qui rejoint aussi vos propres réflexions, je pense.
Ouais, merci. Merci beaucoup, Claire et Amel. Je pense qu'on peut... On peut rester sur cette question ouverte aussi comme une perche tendue peut-être pour un prochain plateau aussi à Marseille sur lequel on pourra prolonger aussi ces réflexions et qui fait directement aussi à écho et peut-être qu'Olivier tu peux en dire deux mots à la rencontre quand même ce matin avec Carescom et donc un son aussi qu'on va diffuser dans la semaine. Et qui sont des questions, nous, qu'on va continuer de réfléchir aussi à partir de Rennes et puis à partir des autres endroits avec lesquels voilà, on a des relations et des alliances, quoi. Et merci beaucoup, Claire et Amel.
Ben, merci à toi, Simon. Merci à vous tous et toutes. Et à bientôt à Marseille.
Ouais, à plus tard. Salut.
Salut.
Oui, je vais faire une espèce de peut-être mot pour aussi retisser un peu des choses qui ont traversé ce plateau, mais aussi le précédent, à laquelle tout à l'heure je pensais aussi à ça quand je pensais aux performances de bureaux des dépositions, peut-être en les mettant en rapport aussi avec l'ILOR et aussi à la maison restée étranger, c'était de se dire que quelque part ce que ça avait en commun, c'est que ça a expérimenté une espèce de possibilité avec une échelle donnée, c'est-à-dire qu'en gros, la question qui vient d'être évoquée autour de la question de changer le droit, j'ai l'impression qu'on s'y est à la fois, confronte de manière extérieure, c'est-à-dire tu changes le droit parce qu'il vient agresser un espace, mais il y a aussi une dimension intérieure à cette question-là qui est importante et je trouve qui est pratiquée par tous les projets qu'on a traversés aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'instituer un lieu. Avec ILOR, en fait, la question, c'est quand même le lieu, il existe et il existe par ses interactions intérieures. De la même manière que bureau des dépositions, une performance d'une heure et demie, deux heures, c'est un moment de justice. Ce n'est pas qu'une chose qui a une fonction, donc ça suspend à un moment donné quelque chose. Et je trouve que la notion de suspendre le droit, autant, je dirais, spatialement que dans le temps, c'est aussi l'idée de fabriquer des espèces de petits prototypes. Et là, j'irais un petit peu sur le terrain de notamment d'Isabelle Stengers lorsqu'elle parle d'une approche spéculative. Je pense que ce qui est important dans la manière dont a été conçu le droit jusqu'à présent, c'est qu'on a confronté le droit avec l'outil du droit. On s'est dit, voilà, le droit, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut trouver des biais mais en étant dans le droit? Alors que le geste spéculatif est un peu différent, c'est qu'il dit, est-ce que les choses ne pourraient pas être globalement autres? Mais au lieu de se dire qu'elles sont autres et loin de nous, un geste spéculatif, c'est un geste qui fait goûter à ce que ça pourrait être à une petite échelle. Pour moi, ILOR, avec la durée que ça a eu, ce n'est pas tant, en fait, la volonté de tout changer durablement, mais de dire, pendant un temps, on goûte à ce que ça peut être quand même une situation différente. On y goûte, et du coup, la notion spéculative, ça veut dire que ça nous engage vers quelque chose qui pourrait changer, mais qui ne part pas du fait d'un étant donné de la loi. Et ça, c'est important pour moi, parce que dans les combats juridiques, l'une des limites, c'est qu'il y a une considération de la loi comme étant incomplète, à améliorer, alors que je trouve qu'un geste spéculatif ne considère pas que la loi est juste, quoi. Donc, de toute façon, en fait, tu es soumis à la loi, mais tu ne la considères pas comme juste. C'est-à-dire que tu crées une espèce d'enclave. L'enclave peut être une maison, peut être un terrain, peut être un temps. Et ça, pour moi, c'est ce geste spéculatif, ils sont importants. Et je trouve qu'ils sont plus dans ce qu'on appelle dans les théories critiques aujourd'hui des gestes abolitionnistes, comme abolir la prison, abolir la police. Donc c'est plus pour abolir le droit que d'améliorer le droit. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me semble assez, assez important. Et ces expériences-là sont donc plus spéculatives au sens qu'elles tentent, à un moment donné, où elles suspendent un certain nombre de droits qui vont contre nous, pour nous faire goûter à ces possibilités-là. Parce que notre imaginaire, il est pollué en termes de possibles. Il est de plus en plus réduit. On a l'impression qu'on peut rien faire. En fait, en réalité, comme vous l'avez fait pour ILOR, c'est en faisant qu'on se rend compte qu'on peut faire. Parce que personne va nous dire on peut le faire, ça. Tu dis mais ça on l'a déjà fait. Ah ouais, mais ça c'est on peut pas le faire. Mais si on peut le faire en fait, on l'a fait. Donc cette espèce de goût, et Isabelle Sengers, la philosophe belge, en parle beaucoup. C'est ce qu'elle appelle l'appât. C'est-à-dire que pour faire venir un futur spéculatif, il faut qu'il ait un tout petit peu de réalité dans le présent. Sinon, ça devient une espèce d'idée utopique loin de nous. Donc, la goûter, c'est qu'on peut quand même l'expérimenter. Je trouve qu'une performance, un lieu, un geste, une occupation, c'est quand même des choses qui goûtent. Et je trouve que cette, pour le dire, hein, en 10 ans, l'approche spéculative a gagné beaucoup de terrain, y compris dans le terrain du droit. Avant, les juristes nous disaient, les amis, nous, on n'est pas des artistes, hein, on est très sérieux. Vous êtes dans vos délires, là. Nous, on est dans des métiers. Et n'empêche, ce qui a avancé, le plus fait avancer le droit, c'est bien des pratiques expérimentales. Donc, ça montre aussi que ces petites échelles-là ne sont pas que des trucs de gens idiots, quoi. C'est aussi qu'il faut qu'on arrive à goûter pour croire et pour transformer. Et cette influence-là sur le droit, je dirais, classique, a fait que beaucoup de jeunes juristes vont s'intéresser à ces expériences-là. Donc ce qu'on fait, c'est aussi changer leur imaginaire et leur volonté de bouger les choses. Donc ça, je voulais vraiment en parler. Et en transition, c'est pour dire que voilà, ce matin, on s'est rendu dans le cadre de cet atterrissage global à Rennes, dans le quartier de Clunet. Au début d'une occupation donc de l'ancienne Antipode, donc MJC et salle de concert mythique de Rennes, qui s'est déplacée de 500 mètres pour devenir une SMAC flambant neuf, etc., et qui a laissé en fait comme un peu une mue, c'est quand il y a une belle libellule qui s'envole et puis il y a la vieille enveloppe qui reste à l'endroit. Donc il reste la fameuse MJC et la salle de concert historique dans son jus. Qui va être ouvert un appel à projet ou qui a été ouvert un appel à projet par la ville de Rennes pour une occupation temporaire de 3 ans avant que l'espace soit a priori détruit pour construire des logements. Et donc l'association Cœur Esquem, qui je pense partage aussi des locaux avec certains d'entre vous, ont décidé eux de faire une occupation en amont de l'appel à projet pour un peu dans la même idée que je viens d'exprimer, pour être déjà dans le lieu, déjà l'expérimenter, pour répondre à cet appel à projet depuis une occupation. C'est-à-dire dire, au lieu de se dire « on va vous dire ce qu'on pourrait faire », ben déjà on va occuper le lieu. Et donc ils sont arrivés avec plusieurs dizaines de volontaires internationaux. Et puis sur un mois, ils vont occuper le lieu successivement, expérimenter des choses. Partant du principe qu'eux, ils n'ont pas vocation à faire des vraies occupations précaires, ils disaient qu'ils sont en train d'apprendre, et ça rejoignait aussi ce qui a été exprimé à plusieurs moments dans la soirée, c'est-à-dire qu'eux, ils se sont associés à des structures européennes, en Lituanie, en Belgique, en Roumanie, en Italie, qui sont beaucoup plus expérimentées, pour certaines, à un niveau même qui peut paraître un petit peu, discutable, en tout cas très expérimenté dans l'occupation précaire dans certaines villes, pour apprendre à le faire et à rendre ça aussi, presque à en développer pour le coup, une méthode pour après proposer des projets. Donc là, ils commencent cette occupation-là et on va les suivre pendant ce mois-là à Rennes. Parce que voilà, l'une des idées pour eux, c'était que ce lieu qui était un lieu de quartier assez important, continue à rester un lieu de quartier peut-être dans les 3 ans qui vont venir, alors que la mairie voit d'un bon œil de donner, d'accepter des propositions de 15-20 associations qui se passent des clés comme ça pour avoir un atelier, un petit espace, mais pas du tout un projet global qui implique fortement les habitants comme c'était le cas de la MJC auparavant. Donc voilà, c'était pour dire que ça c'était notre petit Moment du Matin qui va aussi ouvrir des émissions sur la radio bientôt. Pour dire aussi que voilà, dans ce tissage-là, en tout cas, l'idée de proposer ces expériences-là, c'était montrer aussi qu'elles avaient des impacts dans les vécus, des archives, mais aussi des impacts dans le long terme. Je pense qu'il y a aussi des choses qui marquent et qui commencent à essaimer. Donc, j'espère que ça va donner envie à plein de gens qui nous ont écoutés ou plein de gens qui étaient avec nous aujourd'hui d'aller occuper un terrain, une maison, de faire des performances. Parce qu'il y a quand même des possibilités qui s'ouvrent à nous qui sont beaucoup, beaucoup plus vastes que ce qu'on voudrait nous faire croire. Parce qu'on vit finalement pas dans un supermarché, quoi qu'on veuille nous faire croire. Voilà, merci. Le mot de la fin, Simon, si tu veux.
Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Olivier, pour la fin. Puis, puis merci beaucoup à tout le monde qui ont parlé, qui ont écouté, pour l'endurance aussi de cette attention. Et on enchaîne tout de suite avec Victor du Jam & Joy Sound System. Au platine. 2 heures 100% vinyle.